Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue. Bienvenue dans le podcast le plus mystérieux du PAF. Le podcast qui allie les mythes et légendes européens des temps anciens au débordement graveleux sur la Seconde Guerre mondiale. Le charme de l'ancien et le côté pratique du neuf. Le croquant du cornichon, la douceur du nichon. Bienvenue. Bienvenue dans le Régrave. Et ce soir, je ne suis pas seul puisque je suis accompagné de mon fidèle compagnon de toujours. Fruit de mon imagination pour me défendre contre les gens qui faisaient rien que m'embêter à l'école. Grande gueule quand il n'est pas atteint d'aphasie, mais aussi jeune oisillon blessé qui ne rêve que d'être dorloté. Il maîtrise le chant, la danse et définitivement le swag. Bonsoir Gaspard.
Quoi Bonsoir Raphaël, bonsoir Cécile.
Et avec nous ce soir, le terrible et immonde ogre sempiternel enfoui au fin fond des terres les plus obscures. Nous avons perturbé son sommeil profond pour le plaisir de nos auditeurs, mais à nos risques et périls. Haleine centenaire, problème d'élocution, bizarre fascination pour les jeunes vierges et autres genoux cagneux. Faites un triomphe pour Cécile. Bonsoir Cécile.
Bonsoir.
Et ce soir, les amis, on parle
d'une bande dessinée.
L'homme gribouillé.
Merci. Et l'homme gribouillé, alors, c'est dessiné par Frédéric Peters, un auteur de bande dessinée suisse. Ah. Non, il est de Genève. En 95, il a un diplôme en communication visuelle. En 97, il a un BEP option force de vente.
Il te force à acheter.
C'est ça. En 97 aussi, il publie sa première bande dessinée Fromage et Confiture, ainsi que Comment rigoler avec vos amis. Puis il signe Brandon Bellard aux éditions Altrabi l'année suivante. En 2001, sur la suggestion d'un ami, il écrit un roman autobiographique. Un roman graphique autobiographique, Pilule Bleue. Il narre son histoire d'amour avec Cathy, une séropositive.
Ah, voilà. Lol.
Oui. Mère d'un fils, lui aussi, séropositif.
Ah, c'est vrai?
Ouais.
Ah, bah normal en fait.
Double lol. Qui vont trop trop bien. Tout est positif dans leur vie.
Ouais, c'est vrai.
Ça marche tellement bien que ça fait même l'objet d'une adaptation sur la chaîne Arte.
Oh.
Arte, écoutez la différence. En 2002, il reçoit le prix Topfer de la ville de Genève ainsi qu'une nomination au Festival international de la BD
d'Angoulême.
Ouais, bien vu pour Pilule Bleue. Vous commencez à voir le lien entre tous les trucs que je choisis. En 2003, il lance Lupus et obtient 4 nominations au Festival international de la bande dessinée
d'Angoulême,
dont le 4e tome est élu essentiel d'Angoulême en 2007. Vous
d'Angoulême.
Commencez à voir un peu où je veux en venir. D'Angoulême, merci. Il coécrit avec Serge Lehmann le scénario de L'homme gribouillé dont il signe le dessin et qui sort en 2018. Et Serge Lehmann, lui.
C'est une histoire de Goulem.
Il est allemand.
C'est un scénariste qui a fait il a fait des livres, il a fait du scénario, il a fait des scénarios pour les films, il a notamment aidé Enki Bilal à adapter plusieurs de ses ouvrages, et en 2018 donc il écrit le scénario de L'homme gribouillé, ce dont nous parlons ce soir.
Bah oui.
Et donc je me tourne vers vous pour vous demander,
il a eu un prix en Goulême, L'homme gribouillé?
L'homme gribouillé, oui, il a eu juste...
T'as pas l'air sûr. Non. S'il a pas eu de prix, moi je me barre tout de suite, hein.
S'il était dans le off, ouais. Il a eu le prix, moi, mais bon,
je crois qu'il a eu le prix des Inrocuptibles.
Ah
voilà. Aïe aïe aïe.
Mais à Angoulême,
en même temps tu me diras, ça se passe à Paris, plus ou moins Paris Est.
Ouais, j'avoue.
Donc
non, c'est ouvert, c'est Paris, c'est ouvert. 5 et 13.
Ouais. Les Inrocuptibles, on dit, on a détesté, mais un peu moins que le reste. Donc, on lui donne le prix, quoi. Cécile, qu'est-ce que tu as pensé de cette petite BD? Enfin, petite.
Petite, oui, parce que Raphaël qui nous dit. Ouais, fan de BD, 350 pages.
Vous allez voir, c'est rapide.
Ouais, c'est ça.
T'as pas besoin de lire le texte, tu regardes les images, quoi.
Exactement. Non, mais j'ai beaucoup aimé les dessins. Je ne sais pas si la ligne claire, mais on en parlera.
Pas vraiment.
Oui, non, non.
Dans le visage, on trouve des...
C'était une perche que je te tendais pour que tu puisses briller.
Non, mais tu luis déjà, c'est déjà
pas bon. C'est bon.
Sur le mais front,
alors moi, je suis très content de parler BD avec vous, feu foire.
Je lis très peu de BD, encore moins de contes illustrés, en fait, parce que c'est un conte, finalement. Et ça, j'ai bien aimé. Après, je suis pas totalement emballée non plus. Est-ce que je peux spoiler ou pas?
Pas tout de suite.
Bah, spoil pas, mais essaye de nous dire ce qui te dérange un peu. Ou alors, on l'aborde plus tard, comme tu le...
Plus tard, c'est comme tu veux.
Abordons plus tard, alors.
Il y a pas de souci.
Il y a quelque chose qui m'a dérangé. Voilà, je le dirai après.
C'est même pas la place de la femme.
Non, ça va.
Bon, ça va, c'est comme des héroïnes, on peut le dire.
Oui,
ça va. Ah, tu aurais pas dû casser les couilles, choisir un truc où il y a des meufs, là.
De merde.
Bordel.
Oui. Mais après, j'ai bien aimé les dessins et surtout parfois, tu crois être dans un conte un peu parfois au début un peu genre wouhou, c'est gna 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 gna, pardon.
Ouais, et après. On voit tous très bien, du coup.
Non, mais il y a des trucs super violents auxquels tu t'attends pas. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté en fait trash dans un truc qui se veut un peu. Okay, on retourne voir la famille. Mmh. Voilà, réalité. En fait, mais c'est ça aussi mon problème aussi. Moi, je te dirai après.
Mais alors, je me permets de.
Vas-y, Gaspard.
Délicatement.
Une quenelle, Gaspard, non. Gaspard, non.
Non, mais moi également aussi, j'ai trouvé la BD très intéressante. Alors, elle a une première vertu, parce qu'on le dit, elle fait quand même presque 400 pages, et bon, on a du mal à la lâcher, parce qu'il y a
une
maîtrise de l'intrigue assez efficace. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est vrai qu'on va pas peut-être trop spoiler tout de suite, mais il y a un truc que j'ai trouvé très agréable. Je ne connaissais absolument pas le pitch, j'avais juste le titre. Je pensais que j'allais lire L'homme gribouille, alors...
Personne n'a gribouillé, je ne comprends pas.
Exactement. Cette BD, vous allez voir, c'est fait par Manès de 5 ans, c'est extraordinaire. Regardez ce qu'elle fait à son âge.
Et en effet, moi, je suis d'accord avec Cécile, c'est-à-dire que je trouve assez en fait surprenant. Le ça commence dans un truc un peu naturaliste, tu as l'impression que ça va être une histoire de quarantenaire parisien qui a du mal avec sa famille et tout, et en fait ça va glisser petit à petit vers le drame et l'enquête familiale, l'enquête policière, puis d'un coup ça va partir vraiment
dans... tu spoil tout quoi là,
est-ce qu'un peu fantastique et ça va finir vraiment dans le totalement mythologique et complètement barré quoi.
Ouais. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant c'est que ça reboucle avec la genèse de la Bible, c'est fait exprès pour qu'on puisse lire ça comme avant. Ça,
et c'est surtout un très bel hommage à Rocaillou, le Pokémon.
Ouais.
Et toi Raph, t'en as pensé quoi?
En termes d'hommage à Pokémon, je trouve que c'était vraiment bien amené. Non, c'est une BD que j'ai découvert un peu par hasard. Je suis passé, faut dire.
Je n'ai pas lu.
voilà, je voulais donner à lire, c'était vos devoirs. Non, mais je l'ai découvert sur une étale en voyant qu'il y avait un prix. Et puis moi, je suis assez curieux niveau BD. Je pense que vous l'avez dit un petit peu. Et du coup, bah, je l'ai saisi, j'ai regardé. Et moi, il faut que les dessins ils accrochent pour que j'accroche à une histoire. Et bah, j'ai accroché tout de suite. Donc, la patte du dessinateur, elle est vraiment, vraiment extraordinaire. Sur le travail du noir, le travail de l'ambiance, les moments.
Où, ouais, ouais.
Bon, à un moment, ils sortent de Paris justement. Ils se retrouve au fin fond du Jura et t'as une ambiance qui est retranscrite.
Non, mais c'est
par
vrai
le brouillard,
que ouais, tous les dessins
quoi.
Ils correspondent, enfin ils te mettent dans les sentiments des personnages. Ouais. C'est assez fou de ce point de vue là.
D'un point de vue technique de dessin, on en parlera un petit peu après, mais il a utilisé de manière très simple, c'est de l'encre et après des aplats de gris avec.
Alors il a utilisé des feuilles avec un objet qu'on appelle le stylo.
Et il a gribouillé.
La manière dont il appuyait en fait l'intensité et les mouvements en fait reproduisaient des choses comme un visage par exemple.
Ça a été novateur, il a été primé pour ça d'ailleurs, hein, parce que d'habitude on fait
de
caca. Et non mais en termes d'histoire, moi j'ai beaucoup apprécié. J'aime bien quand tu mêles un petit peu la mythologie et côté un peu SF à des choses un peu plus réalistes.
Mais maintenant que vous avez dit ça, en fait vous avez spoilé ce que je voulais spoiler.
Non, parce qu'on va pas dire de quoi ça parle.
Oui, non, je sais, mais moi, ce qui m'avait dérangé un peu, moi
c'est que Macron soit réélu. Je trouve que ça c'est complètement
non, c'est ce que je m'attendais pas, j'étais pas préparée à ce que ça parte autant dans le surnaturel, et du coup j'étais sur la piste d'une explication
oui, je vois ce que tu dis, moi aussi
rationnelle.
J'ai pas été satisfait là-dessus.
Et du coup quand est venue la fin et que c'est parti dans le fantastique et le mythe, et du coup j'étais un peu déçue, tu vois. Okay, ce que là. Je veux dire. Alors que j'adore le fantastique,
ouais,
vraiment.
T'attendais autre chose.
C'est
quoi.
Juste que je trouve que c'était pas amené, on en parlera, mais je trouve que c'était pas amené assez bien pour moi le côté fantastique. Et je croyais juste que c'était une ambiance qui essayait de donner un peu au truc, et j'aimais bien ça.
Mais côté thriller, en fait.
Mais que ça, voilà, mais que ça se résolve de manière complètement fantastique, ça m'a dérangé, en fait.
Je suis d'accord avec toi, parce que surtout, en fait, moi, c'est ça mon gros problème avec la BD.
Ça fait un peu Deus Ex Machina, alors qu'en
total.
Fait, trop
et
pas.
En fait, il a posé plein de trucs de manière assez subtile, et quand t'es un peu habitué à du policier et tout, tu dis,
c'est
ok, comment le plaisir, ça va être le moment où tout va se réembriquer. Et en fait, lui, d'un coup, au bout de, on verra à quel moment, il sort la carte magie, et en fait il efface tout avec, et donc bon,
ouais,
c'est un peu
ça, ouais.
Mais ça reste intéressant.
Moi je me permets de donner la lecture inverse, justement c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est une construction classique dans le sens où t'as tous les éléments d'un mystère, un homme qui serait vivant depuis 45
non, ça arrive au bout de 100 pages,
ouais.
120 pages, ça.
T'as plein de trucs mystérieux, je veux dire, c'est un exemple, t'as plein de trucs mystérieux, tu dis ok, comment est-ce que il va lier le récit au réel. Même d'ailleurs la couverture, t'as un homme un peu inquiétant dessus, mais tu peux toujours te dire que c'est quelqu'un qui est déguisé ou je sais pas quoi.
Oui.
Et tu ne te rendras compte dans la BD plus tard que en fait c'est fantastique, c'est un élément fantastique, et c'est ça que j'ai aimé, c'est-à-dire que t'as vraiment ce début où tu te dis ah putain, il y a un truc un peu fou qui se passe, mais c'est sûr que y a une explication. En fait, bah, l'explication, c'est que il y a pas d'explication.
Et du coup, tu comprends bien la frustration du coup.
Ouais.
Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Non, mais en fait, c'est pour vous, ça a pas marché parce que vous attendiez du réel. Pour moi, ça a marché parce que j'attendais justement du mythologique. Mais je vous propose tout de suite d'attaquer le récit, qu'on vous lise un petit peu plus de ce qui se passe dans L'Homme Gribouillé. L'histoire s'ouvre à Paris sous des trompes d'eau et on découvre le personnage de Betty. Donc Betty, c'est une quarantenaire hein, qui a un peu grande gueule. Et alors, grande gueule, elle l'est pas vraiment. Puisque...
Bah non, parce qu'en fait, on comprend vite qu'elle peut pas parler. Au début, on sait pas si ça va être un truc de toute la BD, en fait.
On a un peu peur, même.
Ouais, on a un peu peur, oui, d'ailleurs. Est-ce qu'on va être dans cette... Moi, c'est que les onomatopées. Mais du coup, c'est bien fait, tu sais, genre, comme je lis pas beaucoup de BD, moi, je suis étonnée par les trucs de BD.
C'est incroyable, ces petits dessins, là.
Non, mais, tu sais, genre, la différence, comment il te fait comprendre qu'on est, en fait, dans sa tête, etc., avec, en fait, la bulle qui est pas le même contour. Enfin, bref, voilà.
Non, mais t'as le petit mur, la manière dont il retranscrit ce qu'elle pense et tout ça.
Mais c'est... Oui, c'est ça, c'est marrant. Enfin, visuellement, on comprend, quoi. C'est ça qui est intéressant.
Oui. Merci.
Ah, puis surtout, bon, elle a l'air d'avoir un petit penchant pour l'alcool, elle est un peu esseulée, on la voit, elle rentre chez elle, enfin, elle vit chez sa mère parce qu'apparemment son appartement est complètement inondé.
Ah oui, oui, c'est.
Il y a des petits travaux dans son appart. Elle vit dans son appart, sa fille vit dans l'appartement de sa grand-mère. Donc là, elle va dîner chez sa grand-mère, enfin, chez sa mère, pardon. Donc on découvre le personnage de sa mère qui est quelqu'un.
Très fantasque,
qui est une grande écrivaine de livres pour enfants, de beaucoup d'imagination. Elle a été reconnue, elle a fait fortune avec ça. Sa fille, donc Betty, notre héroïne, elle est éditrice. On sent qu'elle a pas eu le talent de sa mère.
On sent qu'un peu, elle se sent un peu comme la ratée de la famille, quoi.
Ouais. Et puis elle s'en bat un peu les couilles.
Elle traîne son spleen, quoi.
Elle fait la gueule.
Moi, au début, j'étais un peu en mode genre, putain, je sais pas comment tu vas vouloir que je m'attache à toi parce que t'as l'air de beaucoup faire la gueule, quoi.
Elle boude.
Oui, tout le temps. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, elle m'a regardé, moi, elle a dû bouger. Tu vois, en fait, il y a 40 pages de rien.
Juste, il y a sa tronche qui te regarde.
C'est-à-dire que lundi, j'ai un podcast à faire et tout. Ok. Allez, on y retourne.
Ah oui, elle fume aussi.
Elle fume beaucoup. Et on découvre aussi le personnage de sa fille qui est un petit peu l'inverse. Qui est tout enjoué.
Typiquement, ce type de personnage un peu insup aussi. Hein.
Ah oui, clairement.
Nous, tu vois.
Ouais, en plus, il y a un truc dans le dessin où ils l'ont fait avec des grands yeux. Ouais. Elle est toujours en train d'être.
C'est trop bien, maman, je t'adore. Ou même, t'es tellement la meilleure.
Ah, j'ai trop de talent. Je raconte des histoires. J'aime les enfants.
J'aime les enfants. Je suis parfaite.
Exactement.
J'ai pas encore mes règles. C'est pour ça que je suis parfaite.
J'ai une petite boule dans le cou, là. C'est quoi? J'ai trop hâte d'aller voir le médecin demain.
Maman, regarde mes cheveux. Je peux les enlever.
Ah, si tu savais.
C'est la magie.
La magie.
C'est la magie, mon enfant.
C'est vrai, pas dû cracher ma clope à la gueule.
Toutes ces années. Et Clara, donc, oui, elle dort chez sa grand-mère. On sent qu'elle est un peu en bisbille avec Betty. Elle est réveillée le lendemain, Clara, par une petite sonnette qui la sort de sa torpeur. Et en fait, on découvre à la porte d'entrée un personnage un peu étrange. C'est qui, ce personnage?
C'est une sorte de oiseau homme méchant.
En fait, on voit un type un peu
avec un masque.
On pense que c'est un masque. Ouais.
Moi, je pensais que c'était un masque. Oui.
Ouais. Tout le monde pense que c'est.
Mais d'ailleurs, pour
tout
ceux
monde se trompe.
Pour ceux qui ont vu les Miyazaki, le château ambulant, les hommes de la sorcière des Landes, ils ressemblent exactement à ça.
Effectivement, ouais, c'est un peu ça.
Voilà.
Quoi? Je
Du coup, il y a pas la voix dans les BD, donc c'est moi qui fais les voix.
Il a fait bien.
Il a un peu la voix comme ça pour moi.
Il fait beaucoup moins peur comme ça. Je vais te tuer. Et du coup,
il a l'accent belge.
Et des.
Tu veux pas qu'une frite?
Oh, tu les frites là?
Eh oui, ta grand-mère parle là.
Eh oui, eh oui. Faudrait que tu donnes l'argent pour le gouvernement de Belgique. Ça fait 2 ans qu'on est bloqué.
Les jardineurs.
Et du coup, on comprend que Maud devait rencontrer ce personnage un petit peu intrigant et lui remettre un paquet.
C'est son rendez-vous de
Tinder. Sauf que qu'est-ce qui se passe avec Maud? Bah, elle se réveille pas.
Ça va pas très bien, je crois. Je suis bloqué du côté gauche.
Parce qu'elle, apparemment, elle a fait un petit truc il y a 6 ans. Elle a trouvé ça tellement fun qu'elle décide de le refaire.
C'est ça. Un AVC.
Yeah, méga AVC. Du coup, elle est au fond de son lit, complètement dans le coma.
Donc, elle est transportée d'un coup en urgence à l'hôpital. Tout le monde se retrouve. Sauf que, bon, la jeune Clara, elle est en mode, je comprends pas.
Il y a un mec chelou.
Parce que surtout, le Max Corbeau l'a menacé. Lui a dit, bah, écoute, c'est pas ta grand-mère qui m'amène ce paquet, c'est toi.
C'est ça.
Et elle dit, rendez-vous demain, score légal.
Ouais, et on a déjà ce truc un peu effrayant. C'est-à-dire qu'il ressemblait un peu à un être humain, mais quand il commence à se pencher vers elle, il prend de l'ampleur, c'est un peu bizarre, il se déforme, il y a des plumes partout, on sent qu'il est pas normal.
Et il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'en fait, tout le monde n'en a rien à foutre au début quand elle raconte ça à Clara, parce qu'on est tous en mode genre, t'es conscient que mémé va peut-être crever, t'es en train de nous parler d'un homme oiseau, quoi.
Ouais, enfin, moi je trouve que très vite, ils s'en détournent des mémés, hein.
Oui, c'est vrai.
Moi j'ai été choqué, hein. Ils sont là. Bon, bah, du coup, on va enquêter. Allez, salut.
Et puis ils disent à Jasmine, qui est un petit peu l'aide de camp de la merde, bah, tu t'en occupes parce que nous on va faire notre trip entre filles. Et puis, de toute façon.
On the road again.
Ouais, tu sais, Clara, un mec qui te demande de lui mettre un paquet de main.
C'est un peu Shrek et Lan, en fait.
Tu veux que je te dise, demain, je suis pas sûr que tu sois encore là pour voir le jour. Hein. Bon, c'est pas grave, hein. Et du coup, on se rend compte, Betty va aller fouiller l'appartement de sa mère et se rend compte qu'il y a un coffre-fort dans lequel il y a une enveloppe avec 10 000 balles dedans.
Il y a écrit Max dessus.
10 briques, mon gars. Avec marqué Max dessus et elle des relevés qui prouvent, en fait, que Maud, depuis des années, depuis même 30 ans, donne de l'argent à ce Max Corbeau, la même somme, tous les ans.
Mystère,
qu'est-ce que ça peut là bien être? Et donc, le soir même.
Je me permets, pardon.
Mais oui.
Moi, c'est ce genre d'élément qui te pose d'un coup une intrigue où tu dis, oh, putain, ça va être un truc de fou, hyper sombre.
Et du coup, je suis en train de me demander comment ils ont fait il y a 6 ans, quand elle a eu son premier AVC.
Ah oui, j'avoue.
Parce que tu crois que c'est à la même date, forcément?
Oui, mais un AVC, ouais, t'as raison.
Tu sais, c'est pas.
Je sais pas. Elle a raison.
Parce que moi, j'en ai peut-être un qui est schedule pour d'ici 2-3 heures. Pensez à me relever, s'il vous plaît. Et du coup, le soir même, Betty et Clara dorment chez une de leurs amies. Ils parlent un petit peu, ils disent « Ouais, c'est bizarre, cette histoire d'argent, etc. » Et en s'endormant, Betty va faire un étrange cauchemar. Alors, le cauchemar, là, on a un élément un peu mystérieux. Il est comment, le cauchemar ?
La nuit.
Oui, bien, mais encore.
Non, surtout, elle va...
Les rêveux
et laiteux. Non, elle va rêver du bureau des traversants. À ne pas confondre avec le bureau des légendes. Hein.
Ah, oui. J'ai cru que tu disais le bureau des travestis.
Ah oui.
Les traversants.
Le bureau des traversants.
Comme elle dort.
T'as bien dormi ? Ouah, de ouf. J'ai rêvé
d'ouvrir. C'est au bureau des traversants, t'es ouf.
Prends bien, mon gars.
Non, et du coup, en fait, c'est une piste et elle essaie de savoir qu'est-ce que c'est que ce bureau des traversins, parce qu'en fait, elle se souvient ou elle croit se souvenir.
Oh, ouais,
que...
elle a des sortes de souvenirs en flash, c'est de ça. Trucs qu'elle aurait oubliés, voilà.
Qui se dit, quoi.
Voilà. Ouais, je me dis, en vrai, moi, je rêve de plein de trucs, je me dis pas, vas-y, je vais enquêter, enfin.
Ah bah, moi, sachant que je rêve de Brad Pitt sur une licorne qui est en train de manger de la mousse au chocolat en hurlant la Constitution française.
Mais est-ce qu'il t'appellerait pas à l'aide, Brad Pitt, finalement?
Non, mais tu vois, c'est ça aussi que j'ai trouvé un peu étrange, qui m'a dérouté. C'est que tu sens que c'est une meuf, quand même, qui a l'air assez rationnelle, droit dans ses bottes et tout, machin.
Oui, je suis d'accord.
Et elle fait un rêve, le traversant, et tout de coup, elle va partir à la recherche de traversant. Enfin, ouais. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, mais en même temps, tu sais très vite que dans sa vie, il y a des trucs méga chelous qui sont...
Ouais, ouais, non,
temps.
Je sais, mais c'est vrai qu'à ce stade-là de l'histoire, tu te dis pourquoi elle va se lancer là-dedans, corps et âme, je trouve que ça collait pas avec le perso. Mais bon.
Ouais. Pour toi, ça n'allait pas. Pour moi, en fait, tu prends un moment de ces gens, le moment où ça bascule, et tu te rends compte de tout ce qu'il y a, le passif derrière. De retour au bureau le lendemain, Betty, donc dans son bureau d'éditrice.
Pas des traversants.
Voilà, elle commence à faire des recherches de bureau des traversants sur son ordinateur, et elle parle à son boss, qui est un ami et ancien collaborateur de Maude, qui lui dit...
Que t'ailles voir Inferi.
Ouais, Pierre Inferi.
Qui est un type qui conserve en fait une sorte de cabinet de curiosité.
C'est ça.
Il est chelou lui-même,
qui
d'ailleurs.
Qui est auteur également, et qu'en fait tu comprends être une sorte de Gabriel Matzneff qui te
tripote
dès que tu vas
il
le voir.
Il a un peu la même tête d'ailleurs.
Exactement.
D'ailleurs, j'aime beaucoup parce que tu as quand même au début, elle dit je vais envoyer ma stagiaire.
Ouais.
Il a six doigts, et apparemment grave, quand il tripote, on dirait une migale.
Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs cette vidéo d'un mec qui a six doigts, ils lui font manipuler une balle. C'est méga flippant, le mec manipule super bien, mais du coup tu vois les six doigts qui touchent le truc, enfin bref,
c'est
tapez ça sur internet,
dégueulasse.
Si vous voulez faire des beaux rêves de bureau de traversant inégal. Donc ce monsieur vit dans une étrange maison, cabinet de curiosité, et il commence à lui raconter une histoire à côté de... Il lui raconte l'histoire de Max Corbeau, parce que il se rend compte que Betty est un peu liée à ça aussi, qui était un tueur pendant la Seconde Guerre mondiale, qui protégeait un faussaire, Simon Levaillant, qui venait en aide aux Juifs en leur faisant de faux papiers. Et ce Max Corbeau aurait continué, après la Seconde Guerre mondiale, en fait, à tuer des gens qui auraient utilisé les papiers de ce faussaire.
Voilà. On commence à te faire comprendre en fait que serait
Maude,
une légende aussi, voilà. Surtout le Max Corbeau. Sinon, c'est pas vrai. Il y en a qui disent que c'est un survivant du massacre de Katyn, d'autres qui disent que non, en fait, c'est un mythe, il a jamais existé. Enfin,
mais du coup, il lui donne le contact.
C'est ça.
Du fils du
de
faussaire en question.
Michel Lévy.
Levaillant, mais en vérité, Michel Lévy.
Michel Lévy accepte de venir d'Israël. D'ailleurs, il est assez accommodant. Hein. Enfin, c'est...
Oui, je débarque demain, pas de soucis.
Demain, Betty et Clara rencontrent Michel Lévy, venu directement d'Israël.
Michel Lévy qui a vraiment la tête.
Ah bah.
Dans Michel Lévy.
C'est-à-dire.
Je ne sais pas.
Oui, exactement, ouais.
Non, mais il est un peu caricatural.
Non, mais je t'en prie, continue. Ouais, voilà.
Bon, il est tout petit, il est tout barbu, tout blanc, et il est accompagné d'un rabbin et d'un type.
Oui, bah voilà.
Qui est formé par le
Mossad.
Le Mossad.
Et du coup,
qui s'appelle Salomon. C'est
ça. Michel Lévy va raconter la vie en fait de son père, le faussaire qui avait aidé des Juifs pendant la guerre, et raconter en gros notamment l'histoire de Max Corbeau, disant voilà, c'est quelque chose que mon père avait inventé pour se protéger
ça
contre des gens. Parce
qu'il adorait la Belgique.
J'adorais, je sais pas, un Max friteux, quelque chose qui s'occuperait des frites. Et qu'en fait, cette légende a continué après, mais que ça n'est qu'une légende.
Il n'existe pas de Max.
Et il leur fait une deuxième petite révélation, en fait, sur la vie de Maude et la vie de Betty.
Bah, il leur apprend que c'est pas leur vrai nom.
Ta 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 ta.
Ta, ta, ta. Et que Maude, en fait, elle a fait les faux papiers aussi, et que c'est pour ça que le corbeau, il vient les faire
ta,
chier.
Ta, 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 ta. Et au début, il se dit, merde, mamie était pute.
Ouais.
Oui, c'est vrai, ça, c'est marrant.
Est-ce qu'il dit, en gros, bon, bah, moi, j'ai connu votre mère dans les années 70, c'était une autre époque.
Voilà, ah, on avait les mères plus libres. Ouais,
exactement.
Gabriel Matzner faisait tant de liberté.
On peut rien dire.
Ouais, puis bon, avec, à 15 ans, elle savait déjà ce qu'elle voulait.
Exactement. Donc,
j'ai écrit des livres, vous devriez...
Bon, on apprendra en fait que c'était pas le cas, mais bon.
Bon, en tout cas, elle était libertine et elle
faisait... Et surtout, vous avez une famille, quelque part, en fait, vous ne le savez pas, vous êtes une singer.
Une singer, c'est votre nom. Votre
ah,
nom
mais
est...
voilà, mais je comprenais pas, justement, parce que moi, je disais singer.
Non, singer.
Singer. Singer, oui, bah,
singer. Like to sing, maybe. Voyons ces découvertes s'accumuler. Maud, enfin Betty et Clara disent attends c'est un peu le bordel, pas très bien. Michel leur fait une proposition très sympa, il dit on va s'occuper de remettre cet argent à ce dit Max Corbeau, hein. Ce n'est qu'une légende, blablabla, on s'en occupe.
Prenez vos armes, bordel.
Juste donnez-nous les 10 000. Donnez-moi les 10 000. Ils sont où les 10 000, bordel?
C'est un peu ça. J'avais même pas pensé à ça en plus. Je suis trop confiant à Michel Lévy.
C'est vrai, vous allez lui donner. Cut ou deux jours plus tard, Max Corbeau qui m'allait faire chier en mode il est où ma thune? Bah non, mais on a donné à Michel Lévy. Mais quel Michel Lévy, putain.
C'est ça.
Bon, alors Betty Clara, elle décide de rentrer chez elle.
Voilà. Et le lendemain,
elle décide de partir tout de suite pour le village.
D'ailleurs, on en parle qu'elles prennent zéro news de la mamie pour l'instant. Enfin, excusez-moi.
Dabbing on them ancêtres. Là,
comme si l'AVC c'était programmé que tu faisais 3 jours de coma et qu'après ça allait mieux. Tu sais. Juste 3 jours le temps de retrouver les traces
de
ta famille.
BD, elle savait qu'elle allait se réveiller.
Oui, donc on va faire la fin, donc ça va, elle peut. On peut y aller maintenant. On se reverra pas tout de suite. Hein.
Michel Lévy a dit elle va se réveiller, t'inquiète.
Et du coup, Michel Lévy, le lendemain, qu'est-ce qu'il va faire?
Et bah, il va au petit rendez-vous pour remettre les sous-sous avec les petits gardes du corps du Mossad, là.
Ouais.
Il se cache et tout. Et là, c'est le drame.
Et bah, c'est là que la BD prend une vraie tournure.
Bah, c'est là où tu commences à te dire, vas-y, il est chelou parce qu'il arrive par les arbres et tout, il vole un peu.
Max Corbeau.
Et il mange tout simplement les gens.
Ouais, voilà.
Voilà.
il les mange et en fait, surtout. Tout à l'heure, on disait que c'était un masque. Là, c'est plus du tout un masque. C'est-à-dire que ça se voit qu'en fait, il a un visage de corbeau, quoi.
Ouais, il a un bec et tout, et puis il s'en sert pour manger. Des frites, des frites, des frites. D'ailleurs, il bouffe que les bites. Oh, ta petite frite. De leur côté, Betty et Clara sont arrivées à La Roche-Maugry, qui est le nom du village dont leur famille en fait est originaire, et elles se rendent compte que c'est un village qui est abandonné, dévasté, qui a été notamment dévasté par un tremblement de terre en 1985.
Ah non,
un glissement de terrain.
Un glissement de terrain,
ouais. Bah oui, on apprendra plus tard pourquoi.
Elles se dirigent vers le couvent, qui est le seul lieu un peu remarquable, et là, elles font la rencontre d'un géologue.
Fabien Lemarche.
Fabien Lemarque. Lemarque, il est breton, il est...
Ah oui. Ouais.
Donc ça se dit.
Canavo, Fabien.
Ouais. On dit des maths. Canavo, ça veut dire au revoir.
Oui, ça veut dire au revoir, Canavo.
Ouais, moi, je dis toujours Canavo.
Ça veut dire, il a dit au revoir après, donc ça va.
C'est vrai. Canavo maintenant, en fait.
C'est ça.
Et du coup, il le dit, cassez-vous, la zone, elle est interdite.
Voilà, c'est dangereux, c'est très dangereux.
Mais sur le chemin du retour, elles sont un petit peu dégoûtées. Mais bon, bah, notre petit... va déjà falloir aller attendre avec Mémé, ça me casse les couilles. Je serais bien resté encore un peu dans mon...
Non, et elles apprennent à la station-service qu'en fait, des singers, il en reste dans la région.
Elles ont une mauvaise réputation.
Non, mais t'imagines, elle aurait pas parlé au mec de la station-service, ouais, serait rentrée, hop.
Non, mais surtout que comme par hasard, tu sais, c'est la petite, elle veut rien dire, et la petite, elle est là. Alors en fait, on recherche notre famille, et du coup, ils font, ah oui, ma petite, je vais te raconter l'histoire. Voilà.
Exactement.
C'est la voix que tu lui donnes au mec. Le mec tout
pourquoi
maigre,
toi,
là,
tu,
qui était...
Tu donnerais toi à quoi comme voix, hein?
Et bonjour, bienvenue dans ma région.
Et bienvenue au premier instant des Vachemins de Sympa ici.
Tu t'appelles le Singer, tu déconnes. Il y a la cousine de ta mère qui vit juste là-bas.
Juste à côté. Elle est sous son habit à tout le monde, ne tarpez de pute.
Eh, donc allez, toi avec ton gros cul là.
Et viens là, la petite là.
Oh, oh,
oh,
oh.
Pourquoi elle part? Oh. Bon, je te disais, Chantal, c'est vraiment insupportable chez Parisiens qui jouent.
Bah, ils sont un peu comme ça, en plus, ils sont là encore des Parisiens.
Ils partent retrouver la fameuse cousine, apparemment.
Alice.
Alice, qui serait la fille de la sœur de Maud.
Alice Faucon, mariée à ce grand con de,
de
Michel. Non.
Donc, il débarque, elle parle, Betty, avec sa...
D'ailleurs, qu'elle est aussi sympa que Betty, d'ailleurs, sa cousine.
Ouais, elle est teigneuse aussi, hein. Enfin, elles se ressemblent.
Elles ont pas l'air marrantes.
Et, en fait, on avait tout le pendant de la vie du faussaire qui a donné un nouveau nom à Maud et à Betty, etc. Et là, on en apprend un peu plus sur la famille Singer. On apprend plusieurs choses un petit peu étranges. C'est que c'est qu'une famille que de femmes qui vivaient dans ce coin depuis très longtemps. Il n'y a jamais d'hommes. D'ailleurs, elles ne font que des filles et elles ne font jamais de garçons.
On peut le dire depuis le début, à part Michel Lévy et un Ferry, il n'y a pas un seul mec dans la BD, quoi.
Et d'ailleurs.
C'est que des vierges immaculées, d'ailleurs. Ouais. Elles d'ailleurs, ont été, c'est
que... Ou alors des juifs qui sont éviscérés.
Même une drôle de.
drôle de famille.
Je voulais allier mes deux passions, c'est-à-dire les juifs et les vierges.
Et la Belgique,
et la Belgique, évidemment. Mais tu as à un moment, je crois que c'est Alice qui dit justement, ce n'est pas une histoire d'homme. D'ailleurs, mais c'est ce que j'ai bien aimé
écrite
dans cette
par deux hommes.
c'est clair.
D'ailleurs, à la fin, il y a une dédicace en mode, s'il vous plaît, ne nous poursuivez pas.
Non, en fait, je rigole, elles sont toutes trans.
À la fin, se bouffent tous la chatte.
Allez. Non, mais c'est pas une histoire d'hommes, c'est y a que des femmes en fait qui sont les protagonistes de cette histoire, quoi.
On leur dit, enfin, en gros, on apprend surtout que il y a les aînés de la famille Singer, toutes les filles aînées peuvent faire le chant.
Voilà.
Coucou!
Et on ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Donc, on est à nouveau en train d'accumuler les pistes.
Là, le chant.
C-H-A-N-T. C'est Mask Singer, ouais. Du coup. C'est
ça,
la fameuse.
Puis
truc.
Ça a beaucoup changé parce qu'au début, c'était un peu. Et puis là, c'est. Maintenant, c'est. Je bombe la tine. Les 90, le chant, il est différent, quoi. Donc, on a cette histoire de chant qui apparemment serait extrêmement important pour la famille Singer. Et surtout, le fait que Maud se soit enfuie. Du village, elle soit partie alors qu'elle était elle-même l'aînée de la famille Singer et qu'elle emportait Betty qui était sa
l'aînée,
fille aînée,
oui.
Ça a foutu un méga zbeul.
Un méga zbeul. Et on est en même temps, on a une sorte de montage alterné, c'est qu'on voit la Clara qui est en train de s'occuper des enfants et la petite fille de la cousine. Qu'est-ce qu'elle écrit? Qu'est-ce qu'elle a dessiné?
L'homme gribouillé. Ah,
le même dessin qu'avait fait Clara quand elle était petite, on le voit puisque dans le coffre-fort qu'avait Maud au début, il y avait ce dessin. D'un homme, en fait, d'une espèce de d'homme avec un visage tout un peu...
Gribouillé.
Oui, voilà. Donc, c'est d'où la BD qui s'appelle...
L'homme gribouillé.
D'où ma déception de dire c'est définitivement pas l'homme gribouillé.
Et là, du coup, Betty dit à Alice, genre, « Ouais, on a voulu aller de l'autre côté de la barrière, mais il y avait un géologue. » Et là, Alice a fait, « What ?»
C'est « what ?»
Mais c'est pas du tout un géologue.
Trop pas. C'est genre un truc paranormal.
Et genre, voilà. Et genre, ils ont squatté.
Et genre, alors là, c'est trop chaud.
Et du coup,
et à ce moment-là, mais trop d'art, il y a le mari qui rentre, quoi.
Ah,
et
oui.
Il dit quoi, le bâtard?
Oh,
Mamoun.
Mamoun. Mamoun, c'est qui ces gens?
T'as pas fait la vaisselle.
Mamoun, tu vas te casser la gueule, Mamoun.
Bah, il est un peu...
Et bon, après, elle rechange de nom pour s'appeler Sauvage.
Quoi?
Jacqueline Sauvage. Ah, bam.
Ah, bam, ça c'était le coup de fusil, évidemment.
D'ailleurs, dans le dos.
Je sais pas si entre temps on peut dire que Michel Lévy est mort.
Eh ben, on a en fait un parallèle avec Max qui est en train de torturer Michel Lévy pour lui dire où se trouve.
Regarde, du saucisson. Non, jamais.
Il le torture à mort. Et d'ailleurs, il va le manger vivant. En fait, il lui mange les entrailles. C'est très, très cool. Et il finit par se rendre chez Betty, le Max Corbeau. Et là, il va interroger un personnage un peu particulier. Le chat
le
de
chat.
Betty.
Oui.
Et le chat
des voisins, quoi.
Le chat des voisins qu'elle garde. Qui va finir par lâcher le morceau en disant, bah oui.
Bah, tu vois, moi, là, c'est à ce moment-là où je me suis dit, ah, donc c'est vraiment fantastique.
Ouais.
Oui.
Jusque-là, j'étais là. Moi, mais s'il peut toujours y avoir une sorte de trucage. Et là, c'est là que je me suis dit.
Ça, ce n'est pas un trucage.
Non, ce n'est pas un trucage.
Surtout qu'il y a un truc, c'est qu'en fait, la série, elle est découpée en chapitres. Et en fait, chaque dernière planche avant le début d'un nouveau chapitre, c'est comme ça, c'est une grande planche avec une, genre, une méga révélation. Et ça se terminait, bah, ça, c'est sur le chat qui est en train de se faire étrangler et qui dit, je sais plus quoi, genre,
je
bâtard.
Sais où elle est partie.
Je vais tout te dire, quoi.
Ouais, laisse-moi tranquille, je vais te le dire. Ouais, je suis un fils de.
Et t'es en mode genre, putain, la poucave.
Ouais, grosse.
D'ailleurs, on peut dire qu'il a tué les voisins aussi.
Sur Betty qui est en train de faire une nouvelle crise d'affaires.
Eh ben c'est bien le moment.
Ah bah alors, est-ce que ça serait pas un parallèle avec les ragnoutes
qui sont toujours là pour nous faire chier, nous les mecs.
Qui arrive toujours au mauvais moment.
Parce que c'est pile au moment où on a besoin qu'elle nous dise des trucs. Elle, comme par hasard, elle ferme sa gueule. Hein. Alors, elle arrête pas de l'ouvrir. Alors, comme par hasard, elle se tait. Hein.
Tu vois, c'est marrant parce qu'on parle de mythologie depuis le début. Mais les ragnoutes, est-ce que ça serait pas un grand complot?
C'est un mythe.
T'avais la vidéo. Extraordinaire là-dessus, je vous invite à aller la voir.
Les mecs qui recommandent trop de vidéos. Ou en plus, on peut même pas taper les mots-clés, tu sais.
Non, je vais juste Ragnout et
débrouille. C'est ça.
Ragnout, débrouille-toi, mon gars. À ce moment-là, Alice appelle Betty et Clara en leur disant « Bon, bah, Ridor, il m'a un peu cassé la gueule hier soir, mais ça va. » On ne plaisante pas sur les femmes qui sont battues.
Non, ça, c'est vrai.
Elle appelle Betty et Clara et leur dit que les géologues qu'elles ont vus la veille, en fait, sont des gens venus étudier le glissement de terrain de 1985 et qui savent sûrement des choses sur la famille.
Cherche le nom de Bugarache. C'est Sylvain Durif qui est là.
Le Christ cosmique. Clara et Betty donc retournent au village et... Alors là,
le mot de passe.
Le mot de passe, c'est on est les Thump Singers.
C'est ça.
Oh, il y a des putes, mon gars. Parce que les géologues sont depuis 85, donc je peux dire qu'ils ont tarpé envie de se taper des meufs.
C'est et non, mais genre, pourquoi vous êtes la famille Singer? Vous ne nous l'avez pas dit depuis le début.
Eh ouais. En fait, vous êtes gavée importante.
Exact. Et donc, en fait, il les fait monter. Et en fait, là, au début, en montant, tu sais, il les croise. Et en fait, il croise des gens.
Et Betty, elle a un petit flashou sur le géologue.
Sur Fabien Lemarche, là.
Les maths.
Et là, ils se rendent compte qu'ils font tous des disciplines différentes.
Exactement.
Et du coup, qu'ils sont transdisciplinaires. Et du coup, qu'ils sont traversants.
Oh.
Non, travestis.
Bonjour. Traversants.
Bonjour, bienvenue dans le bureau des travestis.
Et là, ils commencent à expliquer surtout.
Je m'appelle Carole.
Que ça fait plusieurs années qu'ils sont tombés sur des. En fait, un ancien site païen qui était devenu ensuite devenu une église. Et qui, en fait, ils ont accédé au costume païen qui est en dessous. Et ils comprennent pas pourquoi en fait les païens s'étaient installés ici et pourquoi
et
en
ils
gros,
se doutent qu'il y avait des genres
de dotés de,
voilà.
de dons de ultra psychologiques
des genres de cérémonies rituelles dans l'ancien temps.
Il semble
de
se passer des trucs à
et
échelle
régulière.
Régulière.
Et ils remarquent que tous les 30 ans un jour précis.
Comme une sorte de rave party.
Il y a un truc. Quand il y a un truc qui va, il y a un truc qui va pas.
Tous les 30 ans, il y a la plus grosse rave d'Europe qui se déroule au même village. Ils arrivent.
Et du coup, là, il y avait eu un glissement de terrain 30 ans avant.
Ah, 30 ans pile poil en 1985. Or, l'action
se
déroule
par hasard.
En 2015.
C'est marrant, c'est un truc qui a un peu piqué à Stephen King dans ça. Où en fait il y a une malédiction, on comprend, qui frappe la ville de Derry. Et en fait, on comprend que c'est tous les 27 ans. Il y a
ça qui se réveille.
Qui se réveille.
D'accord.
Pour venir attaquer les enfants.
Y a un peu
et là, il y a un truc,
qui
se réveille là tous les 30 ans. Mais...
Tous les 30
ans. Et on peut dire que du coup, il leur montre une archive.
Oui, parce qu'en 85, quand ils débarquent, ils filment les habitants et ils filment notamment.
La sœur de Maud.
Non, ils filment. Non,
non,
la
mère.
Mère de Maud.
La mère à Maud.
Ah, c'est la mère de Maud.
La grand-mère à Betty, du coup.
La grand-mère à Betty. Et en fait, elle commence à dire ouais, putain, en fait, j'ai perdu ma fille, elle a disparu, elle s'est barrée avec ma petite fille. C'est elle qui devait faire le chant.
Voilà.
C'est quoi le chant, madame?
Je ne vous
le dirai
pas.
Je t'emmerde, connard.
Non, mais c'est ça.
Je suis anarchiste.
Et là, soudain.
C'est fini.
Il y a Max Corbeau qui débarque. Oh!
Avec sa friteuse. Je ramène de quoi faire les frites.
Je vais faire des frites.
J'ai de l'huile, mais je n'ai rien à mettre dans l'huile.
Non, c'est pas vegan. Ah! Ils partent tous.
Donc, il y a Max Corbeau qui débarque en mode Temple Run. Donc, en fait, ils sont.
C'est exactement Temple Run.
Il est en train de les poursuivre. Et donc,
c'est méga flippant en ce moment.
Et donc, les ils sont tous obligés de se barrer en courant. Ils se séparent plus ou moins en deux groupes. D'un coup, on a Betty avec Fabien Lemarque.
Comme par hasard.
Clara avec un type dont j'ai oublié le nom, qui a l'air un peu bizarre. Et en fait, ils s'échappent.
Le mec, il juge comme hasard.
Ils s'échappent de truc. Ils s'apprêtent à affronter Max Corbeau. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? La Terre tremble.
La Terre tremble.
Depuis 30 ans. Et qu'est-ce qui sort de Terre?
Et en fait, on comprend que la montagne, c'est pas vraiment une montagne, quoi.
Le gogo, les Gaulois.
Les Gaulois.
Les Gaulois.
C'est ça.
Non, c'est Maugri, le géant.
Le géant.
L'homme gribouillé.
L'homme gribouillé.
C'est pour ça, en fait, on le voit parce qu'il est composé de terre.
De pierre, de terre.
Forme.
Il a aucune tronche.
Et enfin, l'homme gribouillé, quoi.
Et là, ça m'a fait un peu penser à Ponty.
Ponty.
Ponty, Claude Ponty.
Ah, j'ai cru, un chien, j'ai un chien.
Ah, le mec, il aime la BD, il connaît pas Claude Ponty.
Non, je connais pas, j'avoue.
Tu connais pas Claude Ponty? Bon, excusez-moi. Et bon, enfin bref, c'est un auteur de bande dessinée pour enfants et qui c'est toujours dans des mondes un peu fous comme ça où t'as des montagnes qui parlent et des choses et ça m'a beaucoup fait penser à ça dans le dessin, voilà.
Eh ben écoute, je ne connaissais pas.
Et ce sera ma recommandation.
Mais c'est vrai que c'est assez.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
C'est ça, allez, salut.
Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous passons déjà au podcast de la saison 4. Et donc tu as ce géant qui se réveille, on comprend un peu tout se met en place. Donc la famille Singer qui en fait l'aîné en faisant le chant est censé calmer ce géant, l'endormir.
Sauf que là, d'abord, il y a un autre truc.
Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, juste en 1985.
C'est voilà, qu'en fait, il n'y avait personne pour faire le chant.
Puisque Maud avait pris Betty, elle s'était barrée du village. Alors que la grand-mère, elle disait, hey, il faut qu'elle reste, il faut qu'elle aille le chant, les patates et tout. En fait, voilà. Et on comprend qu'en fait, cette famille garde un petit peu ce lieu et endort ce géant.
Ce sanctuaire, ce sont les gardiens.
Ça ne m'explique toujours pas qui est Max Corbeau.
Ah, oui, c'est vrai.
Attends, ça, on y vient après.
Et donc, là, il y a quand même fight.
Il y a une fight entre Max Corbeau et parce qu'en fait, le géant voit Clara et on sent que le géant, ce qu'il kiffe un peu dans la life,
c'est les petites nanettes de 15 ans.
Ouais, c'est les petites nanettes. Il sniffe, tu vois, il les renifle comme ça.
C'est fini. Et sauf que donc, il s'apprête à se jeter sur Clara, sauf que Clara, on a compris depuis le début qu'elle, en fait,
elle a
le truc.
Parce qu'on l'avait ça a sauté une génération.
On l'avait vu stopper un yinge qui était hyper violent. Mmh. C'est là, un peu comme stop direct.
C'est un peu comme avec toi, Cécile, le talent a sauté une génération.
Oui, ça, c'est vrai.
Elle stoppe direct le géant et en fait elle commence à lui raconter de la merde et en fait on apprend qu'elle est en train de lui raconter le plot d'une histoire de sa grand-mère.
Voilà, donc, qui correspond à son histoire en fait.
Exactement.
Dans le 9 donc il y a le fils de Ben, c'est Ben Solo, voilà.
C'est clair.
La force, mais du côté obscur toi.
Mais il y a Kylo
voilà.
Qui embrasse en fait la meuf qui est peut-être sa sœur.
C'est ça.
Non, mais
du coup comme avant. Mais en fait, non, c'est pas sa sœur.
Parce que c'est la fille de... On ne dira pas, on vous laisse quand même on vous laisse le désespoir pour découvrir qui elle est la fille. Clara, donc on comprend, elle a le chant, elle a ce talent de singer et elle commence à...
Et là, elle chante, d'ailleurs.
Elle chante très mal, mais ça plaît ça plaît à l'ogre.
Et le géant,
ça fait bim, bam, boum.
Ça fait vroom.
Écoutez, t'as sa mère qui est en train de se faire...
Et en même temps, voilà, tu as Betty, elle, qui était incapable de chanter, qui fait un petit peu, qui tombe un peu dans les pommes, fait un flashback et on retrace sa vie. En fait, on comprend que elle n'était pas capable de le faire, c'est pour ça que sa mère s'était barrée et que c'est Clara
oui, pour la
qui
protéger.
A fait son pouvoir. Et en fait, après que le géant ait tué Max Corbeau, on voit Betty qui s'est endormie et c'est sa fille qui vient la réveiller en lui disant ça y est, j'ai endormi le géant. Tout va bien jusque dans 30 ans, puisqu'en fait, ça ne s'arrête jamais.
Mmh. Donc en fait, le géant est gentil, il a juste besoin d'être rassuré comme un enfant.
C'est un grand enfant, finalement.
C'est un grand enfant.
Et ben Max Corbeau, c'était pas une...
Bah oui, mais du coup, voilà,
alors,
c'est ça.
Il dit un truc, il dit « Les hommes m'ont également élevé des temples. » Et ça, moi, je trouve que ça comme Michel Lévy pensait que c'était un golem, donc ce personnage mythique chez les Juifs qui sont... une espèce de monstre créé
c'est
par...
C'est un monstre de glaise.
C'est un monstre de glaise. Mais tu vois, tu peux un peu rattacher ça au côté... il est de là depuis super longtemps. En fait, il est créé. Et il est mythique au même titre que l'ogre, quoi.
Je suis pas convaincu.
Moi non plus.
Enfin, tu vois, il parle avec l'ogre en disant « Moi aussi, les hommes me craignent. »
Le truc, c'est que... Peut-être revenir à ce que disait Cécile au début de l'émission. Et on pourra ensuite, je pense, conclure. Mais c'est qu'en gros, tu as eu des éléments... hyper réaliste d'un polar entre guillemets qui sont posés pendant les 100 premières pages et là ça glisse doucement comme un terrain vers le fantastique et en fait c'est vraiment les 100 dernières pages où il te fait d'un coup genre et en fait il y a des montagnes qui se lèvent et qui... alors ouais. C'est moi en vrai je suis en mode genre ok trop cool mais genre la transition elle fait mal au cul quoi hein. C'est
bon, non bon, et bon, puis bon. En fait je me suis pas rendu compte mais aussi le truc de on sait pas c'est qui ce Max Corbeau
oui,
on sait jamais
sur ma
vraiment
fin, en fait.
Complètement. Et on sent en même temps à ce qu'à la fin, il jette dans le feu les papiers qui avaient été fabriqués par
oui.
Le père de Michel Lévy pour Max Corbeau.
Simon Levaillant.
Tout ce qu'il avait créé autour de lui. Et c'est, on sent un peu que là, on tue le golem parce qu'on met fin à son existence. Vraiment.
C'est comme
mais
quand,
il est mythique
c'est comme
en fait.
Quand,
il, est un
en
peu...
fait, il jette dans le papier et comme dans Retour vers le futur, en fait, les gens s'effacent. Et là, Macron disparaît.
Ah, Marty, il faut qu'on vienne en arrière. Il y a Marine Le Pen en 2022. J'achève l'histoire de l'homme gribouillé. L'homme gribouille. Je vais me tourner vers vous, mes chers camarades. Et toi d'abord, Cécile, qu'en avez-vous pensé?
Bah, j'ai déjà dit, du coup. Mais
oui.
Bah,
c'est comme ça depuis 3 saisons. On va pas changer maintenant.
C'est
hein.
Clair.
Merde.
Eh bien,
il y a quelqu'un qui a déjà fait la blague la semaine dernière.
Oui, bah, d'accord. Oui, bon, bah, je répète ce que j'ai dit. Que
je vous
trouvais...
emmerde.
Mais donc, voilà, que je trouvais qu'à la fin, ça me frustrait un peu... dans la résolution, voilà. et que je suis prête à accepter du fantastique, il y a pas de problème, mais je trouvais que c'était pas amené, que ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe. Voilà. Après, j'aime beaucoup les dessins et la violence qui se dégage, et surtout le fait que ça fasse appel à plein de dans ton imaginaire, enfin dans ton imagination, etc., tout ce que t'as lu aussi quand t'étais petit, ça rappelle beaucoup de contes et de choses. Bah tu vois, ça m'a fait penser à Miyazaki, à Ponty,
ouais,
à
Grimm aussi beaucoup.
Et ça, du coup, ça, voilà, ça éveille aussi beaucoup. Et les dessins, ils sont vraiment géniaux.
Ouais, le dessinateur.
Je trouve ça te met vraiment, c'est assez fort, ouais, en termes de graphisme, ou je ne sais pas, mais c'est vraiment dans l'ambiance, quoi, c'est assez fou.
Mais c'est marrant que tu parles à ce point-là des mythologies européennes, des contes, etc., parce que c'est, bon, évidemment, t'as la figure de l'ogre qui est vachement connue, mais j'ai regardé une interview que tu m'as envoyée tout à l'heure, Gaspard, du dessinateur qui raconte toutes les inspirations qu'il a eues.
Mmh. C'était manga. Principalement.
Alors, ah ouais.
Alors beaucoup manga, mais aussi beaucoup en fait,
nordique,
sur la mythologie européenne en tout cas,
ouais, ouais.
Et sur le côté sombre, le côté très glauque, qui parle de Grimm, donc il parle des vrais contes de Grimm qui sont méga dark à la base.
Ouais, ouais, bah, bien sûr.
Même Andersen, de la petite sirène et tout. C'est que des trucs qu'on a un petit peu adouci avec le côté Disney, mais dans le fond qui sont toujours super violents, super glauques, etc.
Mais c'est vrai.
Et toi, Gaspard, tu citais tout à l'heure hors micro en fait un dessin de l'ogre qui mange.
Il y a un tableau de Goya, oui.
Qui est Goya, voilà, qui mange un de ses enfants.
Non, c'est pas Goya qui mange un de ses enfants.
Pardon, c'est Goya le peintre qui
qui peint Saturne qui mange un de ses enfants.
Saturne, c'est ça.
Un de ses fils.
Et qui est finalement, on retrouve complètement.
Et oui,
dans
c'est
l'image,
un décalque, oui. Enfin, parce que moi, c'était un tableau qui m'a toujours traumatisé où en fait, on voit Saturne qui croque un de ses enfants, qui lui arrache la tête, et en fait, on voit l'homme gribouille faire ça avec Max Corbeau, en fait. Mais en fait, ça m'étonnerait pas qu'à la limite.
Mais
ça
du coup,
c'est
peut-être son
l'inverse.
Fils.
Je crois que Goya s'est inspiré de la BD.
Il y a moyen.
Parce que, ouais, je sais que Goya adore la BD belge.
Ouais, il est très très, il est frite aussi belge. Oui. Mais il était très pote avec Max Corbeau à la base. C'est un hommage à lui. Eh ben écoute, ouais, toi ça t'a plu du coup. Hein,
oui, non, mais moi je suis d'accord avec Cécile sur toute la partie fantastique qui m'aurait pas déplu si elle avait été amenée de manière un peu plus subtile. Je trouve ça trop abrupte et je trouve ça c'est un problème d'écriture et peut-être pas forcément de bande dessinée. Après, je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que le dessin est assez sublime. Il y a des pages parfois où il dessine Paris sous la, parce que faut que les deux premiers tiers se passent uniquement sous la pluie et c'est vraiment sublime en fait. Parce qu'il cherche pas à faire à reproduire Paris, c'est pas quand on avait fait Tardi, tu veux,
ouais,
ou des trucs comme ça
où chaque dessin est méga
exactement
recherché.
Où tu dis putain en fait c'est ouf, je reconnais vraiment
c'est
la
c'est que de la
rue.
Suggestion tout le temps en fait et tu vois tout de suite où il va en venir en fait
et c'est vraiment sublime ce qu'ils font et
c'est un excellent graphiste le mec en fait
et en effet ce que vous venez de dire moi je trouve ça assez enthousiasmant le sort d'amalgame de plein de culture de folklore et de mythologie
et qui mélange ça d'ailleurs avec la Seconde Guerre mondiale avec
ouais non mais ça moi le romanesque comme ça je suis à fond hein, en mode genre non, on ouvre un
pensé...
tiroir et en fait c'est une histoire
et moi ça m'a fait penser à Da Vinci Code un peu
il y a un truc un peu ça
ouais, c'est
parce,
pas
parce que je me suis dit non, et puis en plus ça finit aussi en mode un peu foufou Da Vinci Code bon ça voilà mais dans le
genre
truc
Dieu
de
existe, quoi.
J'aurais été sa fille au coup
mais ouais ça m'a vachement fait penser à ça ouais on va vraiment ouvrir des tiroirs et aller voir enfin voilà
et toi,
dans le fin fond de l'histoire bah moi justement je m'inscris un peu en faux par rapport à vous comme au début c'est-à-dire que le côté fantastique je l'ai trouvé super bien parce que je m'attendais effectivement à avoir une résolution méga logique tu vois un tel qui reprend le rôle de Max Corbeau pour se faire de l'argent mettons etc parce que tous les éléments au début sont apportés comme ça et en fait le fait que ça ait une résolution mythologique carrément mythique moi ça me plaît beaucoup j'aime beaucoup ce genre de récit justement qui te prenne un peu un petit peu en traître et moi ça me fait beaucoup penser on va passer aux recommandations et ça me fait beaucoup penser à un livre qui était de Fred Vargas qui s'appelait L'homme à l'envers je crois dans lequel en gros ça se passe un petit peu c'est un petit peu le même genre d'ambiance
oui
vraiment
ça,
dans
c'est
le...
les mêmes ambiances
ouais, ouais. Dans, c'est dans la montagne ça se passe beaucoup de nuit et on est un peu persuadé qu'il y a un loup-garou en fait qui hante l'endroit qui est revenu etc et t'as même beaucoup de preuves qui s'accumulent sur le fait qu'il y a un loup-garou qui est là et puis bon bah en fait là Fred Vargas prend l'exact inverse de cette BD c'est-à-dire qu'elle
mais dis pas tout
je dis pas tout mais la résolution est logique.
D'accord.
Là où là dans l'homme grimouillé la résolution est mythologique finalement. Donc c'est vachement intéressant.
Logique.
Exactement.
Waouh.
Je vous recommanderais ça, je vous recommanderais d'aller lire Fred Vargas et d'autant plus L'homme à l'envers qui est vraiment un super roman. Cécile, une reco ?
Bah du coup je vais re-reco. Donc je re-reco Claude Ponty du coup qui est un super dessinateur de bande dessinée pour enfants mais pas que. Parce que du coup je reviens aussi sur Miyazaki que je recommande aussi. Mais dans le genre tu crois tu lis un truc pour enfants mais en fait quand t'es grand tu peux tout aussi bien le lire et limite c'est moins traumatisant.
Même Kamasutra. Non mais bravo Gaspard.
Pour Ponty et Miyazaki ça je trouve que c'est un peu le même effet en tout cas que ça fait. Après je recommande aussi d'aller voir le square Le Gall qui est cité dans le livre qui est un square très très joli au milieu du 13e arrondissement de Paris. Et toi Gaspard?
Et moi aussi alors j'ai deux recommandations, j'en avais une qui était prête et l'autre que qu'on va improviser mais je pense que vous allez venir avec moi. Non, la première c'est pour aller aussi dans ton sens en fait, c'est un film coréen qui est sorti en 2016 qui est un des plus grands films pour moi de la décennie, c'est un film qui s'appelle The Strangers de Na Hong Jin. Alors je suis désolé hein, je parle pas coréen.
C'est
à peu près ça, il y a beaucoup de H et de G qui se baladent. C'est un film absolument hallucinant et qui en fait voilà, se passe également dans un village en Corée où ça s'ouvre sur un meurtre un peu bizarre et il va y avoir tout de suite la piste qui est évoquée par les villageois un peu fous du surnaturel et qui est en fait absolument refusée parce que stupide par la police. Et en fait, même tu la refuses toi en tant que spectateur, en fait, petit à petit, tu te rends compte que c'est la seule solution possible. Puis après non, puis après oui, puis après je vous dirai pas. Ouais. Et en fait, la fin, c'est peut-être le film le plus flippant que j'ai vu depuis 15 ans. C'est terrifiant, mais c'est extraordinaire. C'est Memories of Murder, slash Seven, slash je sais pas quel autre truc fantastique sans vous spoiler mais bref c'est assez dingue. Et ensuite un autre truc, c'est une petite reco, c'est juste parce que bon on va peut-être briser le tabou, c'est qu'en fait on n'est pas en direct dans notre iPod, on est désolé. On enregistre,
on tient à dire big up à notre monteur en Pologne.
Exactement.
il est clamsé le pauvre.
En fait là
comme
on enregistre
Michel Lévy.
Le lundi 27 janvier, et on a appris hier la mort d'une de mes idoles de jeunesse. Bah marre-toi peut-être, mais juste pour Kobe, bravo quoi.
Pour Kobe.
Allez, big up Kobe. À la
ouais,
prochaine.
C'est
à
pour toi.
Toi.
Et t'étais le meilleur. Et on t'oubliera pas.
Et bon, on va finir sur une note un peu plus joyeuse. Puisque la semaine prochaine.
Kobe. T'es si jeune, 41 ans.
Ouais, que, ouais, puis sa fille, la pauvre. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. La semaine prochaine, on va se retrouver pour parler lecture. Mais oui, saine lecture, nous aborderons quoi?
Zadig et Voltaire.
Oui, exactement.
Non, on parlera de Candide.
Toi, non
on parlera
ah, oui,
de Candide Shop.
Candide Shop. Bravo, t'as fait les deux blagues qu'il
faut. Ouais,
c'est bon.
Je l'ai déjà fait dans
c'est
le podcast.
Bon. Ah merde.
Et on se retrouvera pour une BD prochaine qui sera Batman de Frank Miller. Voilà, je me tournais vers Cécile, mais elle ne savait pas.
Eh bien non.
En tout cas, merci à vous deux de m'avoir rejoint, Cécile
merci
et Gaspard.
À toi de nous avoir reçu.
Merci à toi.
Et je vous dis à tous ceux qui nous écoutent de liker, de
enculer.
Partager. Je vous fais des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine.
Ciao,
bisous,
Kobe.
Bisous.
Notre issue finale, seul avenir le dira. Du seul c'est comment ça se finira ou négociera. Mystère et suspense, soit en col, soit en bench. Neuve a fondé une famille au top ou a laissé une femme veuve. Et toute une flopée de petits sales derrière. La vie tient à peu de choses, cette phase pourrait être ma dernière. Quand je quitte mes gars, qui dit que je vais les revoir. Je suis pas à l'abri de la bavure du mec qui me dit faire son devoir. T'es ou d'une fan qui aurait pété les plans. Voudrait me buter comme John Lennon, Martin Luther ou Malcolm. Tout n'est qu'incertitude, c'est l'embrouille. Dur de voir clair au milieu de ces turpitudes. Dédié à ceux et celles qui mènent des vies. Je rapporte la mienne et t'as l'impression que je raconte la tienne. C'est l'effet FF, dégâts plus vrais que nature. Ce côté pied sur terre et à la fois immature. Quand je plane comme Bob Marley, je sais plus si c'est moi ou la route qui est en train de parler. Je compte plus voir la vie réaliser mes vœux. Mais si je crève, j'aurais vu naître l'or série volume 1. Et si Dieu veut sur ce, avant de dire au revoir à jamais. J'ai sûrement fait un tas de trucs à connaître et des preuves à surmonter. Peu importe, tant que les miens sont à mes côtés, je ferai peut-être partie de ceux sur qui il faudra compter.
Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où les gens disent tout s'emmerder le système. Peu importe la manière, forte ou douce, chacun essaie de survivre, conscient qu'on y reste tous. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où les gens disent tout s'emmerder le système. Croire en l'argent, son pouvoir, le respect qu'ils dégagent. Puiser leur force dans l'amour, la haine, la peine ou la rage.
Il fallait que je maîtrise les mots pour me défendre, car ce sont des munitions. Si t'as pas les mots, t'es baisé. Fallait que je brûle mes illusions. Fallait bien que je crie aussi, c'est ça le drame. On t'écoute quand tu fais du bruit, que tu casses ou que tu pointes une arme. La mienne est Mike, tu filmes la vie comme Spike. Fume la nuit non-stop. Fallait que je décompresse, non code donne. Fallait que je le dise, oh, fallait que je vise. On avait allumé un feu, fallait que je l'attise. Fallait que j'ai un but, fallait que je fasse mon truc, y'a pas de magie. Même si je parle au passé, c'est du futur qu'il s'agit. Il fallait pas que je sois trop feignant, car je ne suis pas né
dans la soie. Fallait que j'y croie et pas en plaignant. Mon prénom c'est François, le régnant sur rien. Fallait bien que je parte, fallait que je revienne les mêmes pleines. Fallait que je le marque, fallait qu'on vienne et qu'on démontre à n'importe quel endroit que ce soit. Fallait que tu viennes à notre rencontre, peu importe quand, peut-être ce soir. Fallait qu'on garde espoir, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Fallait qu'on soit sincère, pas dire tout ce qui pouvait plaire. Fallait que je défende mon avis, mon corps, mon humour, ma famille, mes amis, jusqu'à la mort, mon amour. Il le fallait, et tant mieux s'il le fallait bien. Je reste anxieux, ne croyez pas que pour moi tout allait bien. Tapez main 5, mais pas dans les yeux si vous me recevez bien.
Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Viens de là où les gens disent de s'emmerder le système. Peu importe la manière, forte ou douce, chacun essaie de survivre, conscient qu'on y reste tous. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Viens de là où les gens disent de s'emmerder le système. Croire en l'argent, son pouvoir, le respect qu'il dégage. Puiser la force dans l'amour, la haine, la peine ou la rage.
Sommes-nous faux ou vrais, à ton avis, bon ou mauvais? Demande à ton ami, peut-être qu'il nous connaît. Entre le bien et le mal, on navigue. On se dit que tout est écrit et que c'est la vie, quoi qu'il arrive. Le système abîme les nôtres, donc la haine les anime. Et c'est normal si tu la ressens lorsqu'on rime. Certains trouvent incompréhensible, normal, ce n'est pas eux les cibles. Au tribunal, c'est jamais leur nom qu'on cite. Et n'ont jamais eu besoin de voler pour vivre, ou connaître le mal-être à cause d'une vie sans équilibre, ou se droguer pour se sentir libre, ou se mettre ivre pour oublier le combat qui se livre. Tout ce que je raconte est minime. Je suis ni un caïd, ni un saint, ni à croire la cocaïne. Je suis simple, comme mes frères et Étienne, sans rire. Et je sais qu'on nourrit tous le mal et fait la grève de la faim au bien, comme à Ibrahim. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où on emmerde le système, de là où les rues craignent, de là où la haine imprègne, de là où les gens freignent, de là où le bien et le mal règne.
Bref, je vois que c'est les mêmes histoires chez les riches et les pauvres. Deal de shit et de gaffe et de jeunes qui se gâchent. Dans certains cas, c'est un gag. Prenez des parts en place ou pas, c'est leur ego connard. Et là, y'a plus de blancs et de nègres. Tu perds Smicara, celui qui roule en cabriolet. C'est le même dégoût quand c'est ta chair qui vient te cambrioler. Ou meurt une seringue au bras et complètement isolé. Ça me rend fou de les voir s'abîmer en être désolé. On a tous des ambitions différentes. Respectons nos différences. Dans nos rues, peu ont les bonnes références. Conséquence, c'est la merde et on s'y accommode. On vit sur les nerfs et y'a plus rien de commode. C'est les sous qui tiennent les commandes. Pourquoi jouer le voyou quand t'as tout ce que tu demandes? Chez nous y'a pas de secret, le pognon régit tout. Les jeux sont faits et en fin de course ils nous désunissent tous.
Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où les gens disent tout s'emmerder le système. Peu importe la manière, fort ou tout.